Le nationalisme du Kremlin est dans la droite ligne de celui de l'époque soviétique, depuis que Staline avait rompu avec l'internationalisme des bolcheviks. Invoquant la prétendue continuité historique de l'État russe, Poutine allie les symboles de l'époque tsariste à ceux de l'époque stalinienne. Par exemple, l'aigle impérial à deux têtes sur les armoiries de l'État et la médaille de héros du travail, récemment réintroduite, qui rappelle le stalinisme et le mouvement stakhanoviste. Chaque année, le 9 mai, le jour de la victoire, célèbre la victoire sur l'Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale, qu'on appelle en Russie la Grande Guerre patriotique. Cette guerre, occasion de glorifier la grandeur de la Russie et l'unité de son peuple face aux agresseurs, est aussi le prétexte à une certaine réhabilitation de Staline. En 2005, Poutine avait fait sensation en déclarant que l'effondrement de l'URSS avait été la catastrophe géopolitique majeure du XXe siècle. Mais il précisa aussitôt que s'il fallait ne pas avoir de cœur pour ne pas regretter la fin de l'URSS, il faudrait ne pas avoir de cerveau pour vouloir y revenir. C'est seulement ainsi que l'URSS trouve grâce à ses yeux, tandis qu'il condamne sciemment la révolution d'octobre, et pour cause. Le centenaire de la révolution n'a donné lieu qu'à un minimum de commémoration. Le message officiel était que la révolution a fait le jeu de l'étranger et a porté bien des malheurs. Mieux vaut un pouvoir fort. Le jour anniversaire de la révolution d'octobre, Poutine a préféré célébrer une victoire militaire de la Russie contre les Polonais, 3 siècles plus tôt, le 7 novembre 1612. En 2005, l'administration présidentielle orchestra la création d'un mouvement de jeunesse pro-gouvernemental, Les Nôtres, chargé d'organiser des manifestations publiques de soutien au régime, de même que des clubs patriotiques parrainés en haut lieu, comme celui des Bikers, les loups de la nuit. Au fil des ans, Poutine affiche de plus en plus sa proximité avec des mouvements nationalistes, ultra-conservateurs européens, dont le Front National et Marine Le Pen, auxquels il sert d'appui, sinon de modèle. Et il n'y a pas que le nationalisme. Après avoir fait canoniser Nicolas II en 2000, Poutine a aidé l'Église orthodoxe à revenir au premier plan. Il lui a fait restituer les monastères et autres bâtiments qui lui avaient été confisqués. L'Église a sa propre chaîne de télévision. Elle a obtenu l'introduction à l'école de cours de religion et l'adoption d'une loi punissant de prison les offenses aux sentiments des croyants. Les popes sont associés à toutes les célébrations et inaugurations publiques. Poutine et Medvedev ne manquent pas une occasion de s'afficher avec le patriarche Kirill, connu pour son train de vie luxueux. Du temps de l'URSS, le parti dit communiste était le pilier idéologique de l'État. Il jouait un rôle d'encadrement et de garde-chiourme dans les domaines idéologiques et moraux. Aujourd'hui, Poutine voudrait que l'Église le remplace, car la bureaucratie et les oligarques savent ne pas pouvoir compter sur l'adhésion spontanée de la population. Parallèlement, la condition des femmes recule. Le pouvoir bolchevique avait instauré le droit à l'avortement en 1920, interdit par Staline en 1936, il fut réintroduit en 1955, mais aujourd'hui, l'Église mène campagne. Elle a déjà obtenu qu'avant tout IVG, on fasse écouter aux femmes les battements de cœur d'un fœtus. Et en 2016, des députés ont tenté de faire retirer l'IVG de la liste des soins remboursés. Dans la même veine, en 2017, une loi a réduit la peine encourue pour les violences conjugales à une simple amende. Et quand, l'affaire Weinstein ayant délié les langues, plusieurs femmes, dont la porte-parole du ministre des Affaires étrangères, ont accusé un député de harcèlement sexuel, il a été blanchi par le Parlement et le porte-parole de la présidence a déclaré que les accusatrices de Weinstein étaient des prostituées. Dès 1918, la révolution russe avait aussi dépénalisé l'homosexualité. Staline l'avait à nouveau criminalisé en 1934. 80 ans plus tard, les homosexuels restent particulièrement mal vus. En 2013, la Douma a voté une loi interdisant ce qu'elle appelle la promotion des relations sexuelles non traditionnelles auprès des mineurs. Enfin, dans ce pays qui compte officiellement 194 nationalités, la démagogie raciste s'exprime de plus en plus à tous les niveaux de la société, les dirigeants montrant l'exemple. Cette xénophobie vise surtout les ressortissants d'Asie centrale, tadjiks, ouzbeks, kirghizes, employés aux travaux les plus pénibles. Leurs conditions de séjour et de travail ont été durcies par la loi et quelques pogroms ont même marqué l'actualité. Alors, nationalisme et idées réactionnaires pèsent d'autant plus qu'ils sont véhiculés par toute l'opposition, ou presque, y compris par le chouchou des médias occidentaux, Navalny, que ceux-ci présentent comme un démocrate parce qu'il ne jure que par la liberté du marché, alors que c'est aussi un ultranationaliste xénophobe. Navalny, juriste et businessman, connu comme blogueur, s'est fait une spécialité de dénoncer la corruption. Son slogan, qui stigmatise Russie unie comme le parti des voleurs et des escrocs, a eu du succès. C'est lui qui a dévoilé l'immense fortune foncière et immobilière de Medvedev. Mais c'est lui aussi qui, en 2007, dans une vidéo, habillé en dentiste, comparait les migrants à des caries. Il a participé pendant des années à la Marche russe, un défilé xénophobe organisé par des groupes fascisants, avant de polir son image pour la rendre plus présentable. Mais lors des dernières élections à la mairie de Moscou, il fut encore à l'initiative d'une pétition nationale pour qu'on expulse les ressortissants des ex-républiques soviétiques séjournant sans permis de travail. En dehors de Navalny, que le Kremlin a écarté de l'élection présidentielle, la plupart des partis d'opposition autorisés ont de bons rapports avec le pouvoir quand ils ne lui mangent pas dans la main. Le seul qui ait encore un certain poids électoral est le Parti communiste russe, le KPRF, héritier du parti stalinien d'autrefois, auprès duquel il fait pâle figure. Il a obtenu 11,77% des suffrages à la dernière présidentielle. Son électorat est surtout composé de gens âgés, de nostalgiques de l'URSS, d'anciens combattants. Il emboîte le pas à Poutine pour tout ce qui vise à rétablir la grandeur de la Russie, comme l'annexion de la Crimée. Le KPRF ne critique jamais Poutine, mais parfois ses ministres et bien sûr les oligarques. Il permet ainsi à une fraction de l'électorat d'exprimer son mécontentement dans les urnes sans contester le régime, qui le lui revaut en lui réservant des sinécures dans l'appareil d'État. Les autres opposants, depuis l'ultranationaliste Jirinovski, provocateur, xénophobe, macho, jusqu'aux partis libéraux un peu plus critiques sur le terrain qui est le leur, mais qui n'ont pas d'électorat conséquent, ne représentent en aucune façon un danger pour le pouvoir. Ils contribuent même à donner une apparence démocratique à un régime qui ne l'est pas du tout, même pas de manière comparable à la démocratie dont la bourgeoisie des pays impérialistes s'offre le luxe. La liberté d'expression en Russie est de plus en plus entravée, surtout depuis un mouvement de protestation qui avait éclaté fin 2011 contre la fraude massive organisée par le pouvoir aux élections législatives. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants, essentiellement des petits bourgeois, avaient alors envahi les rues en conspuant Poutine. À partir de ce moment, ce dernier n'essaya plus de trouver des terrains d'entente avec l'intelligentsia. Il n'était pas question d'entrouvrir la porte à une contestation dont nul ne savait où elle pourrait s'arrêter, ni, surtout, si elle ne risquait pas d'entraîner d'autres couches sociales, dont la classe ouvrière, sur un tout autre terrain. Au lendemain de la présidentielle de mai 2012, quand Poutine retrouva son fauteuil de président, le mouvement fut réprimé et certains de ses leaders jetés en prison. Le droit de manifester fut maintenu, mais les autorités peuvent désormais invoquer le trouble à l'ordre public pour l'entraver. En février 2014, la peine pour des récidivistes participant à des manifestations non autorisées a été portée à 5 ans de prison et 1 million de roubles d'amende, environ 14 000 euros. Heureusement, cela n'a pas empêché de nouvelles manifestations. Au printemps 2017, où cette fois, participèrent non seulement des petits bourgeois, mais beaucoup de jeunes, y compris des lycéens, et même une minorité de travailleurs. Le gouvernement surveille Internet de près, les Russes étant parmi les plus connectés aux réseaux sociaux dans le monde. Un internaute a écopé de 2 ans de colonie pénitentiaire pour avoir insulté un fonctionnaire sur un réseau social. Un autre pour avoir critiqué les bombardements russes en Syrie. Un troisième pour avoir partagé des articles pro-ukrainiens. Récemment, le gouvernement a essayé d'interdire la messagerie Telegram, suscitant de nombreuses protestations. Les principaux médias sont entre les mains du pouvoir et les rares journalistes qui veulent enquêter de façon indépendante prennent des risques. Le journal d'Anna Politkovskaya, Novaya Gazeta, compte ainsi 6 journalistes assassinés depuis 2000. Les militants associatifs, écologistes ou autres, s'exposent aussi au danger. Depuis 2012, on parle d'eux comme d'une cinquième colonne prête à trahir la patrie. Une loi oblige ces associations, ONG, syndicats et partis recevant des financements provenant d'autres pays à se déclarer agents de l'étranger. Quant à l'opposition politique dite hors système, celle dont les partis ne sont pas enregistrés, elle est parfois durement frappée aussi. Lors de la dernière présidentielle, quelques militants d'extrême gauche, pourtant isolés, ont ainsi été arrêtés pour avoir appelé à des rassemblements. Tabassés, torturés pour certains, ils ont été inculpés d'extrémisme comme des terroristes. Remarquons au passage que quand il y a des profits à faire, les capitaux étrangers s'accommodent parfaitement de ces méthodes brutales. Le groupe français Vinci a ainsi obtenu le chantier de construction de la première autoroute à péage entre Saint-Pétersbourg et Moscou, pour lequel il est d'ailleurs accusé de corruption et d'avoir surévalué le coût des travaux. Et bien sur place, des opposants au projet ont été tabassés à coups de barres de fer, brûlés au visage, et la police est intervenue violemment contre des manifestants. Tout cela montre que malgré sa force apparente, le pouvoir ne peut pas laisser toutes les opinions s'exprimer, car toute contestation pourrait trouver un écho rapidement. Évidemment, le régime dirige le pays d'une main de fer, mais il est d'autant plus autoritaire qu'il sait sa popularité fragile et qu'il danse sur un volcan. Les raisons de la colère sont là et il est probable que le mécontentement s'accumule. Comparé au reste de l'Europe, les inégalités en Russie sont parmi les plus grandes. Les salaires ouvriers ne dépassent pas quelques centaines d'euros. Dans un laboratoire d'analyse, par exemple, un technicien peut gagner environ 480 euros au cours actuel, un ouvrier en conditionnement, 275 euros. Un enseignant gagne en théorie l'équivalent de 500 euros, mais la moitié seulement s'il travaille au Daghestan. Et les salaires déclarés, sur la base desquels sont calculées les retraites et éventuelles indemnités de chômage, sont encore plus misérables que les salaires versés, car pour éviter les charges, les entreprises préfèrent payer au noir. Nombre de sans-emploi ne s'inscrivent même plus au chômage parce que les aides sont misérables. Quant au montant des retraites, il est indécent. Beaucoup de personnes âgées travaillent d'ailleurs au-delà de la limite légale, par exemple dans le métro, les musées, la voirie, contre de tout petits salaires. Les prix, eux, ne cessent d'augmenter. Les logements, le coût des crédits, le transport et l'essence, les denrées alimentaires, les soins, les études, tout coûte cher. Et l'État, à la recherche d'argent, envisage d'augmenter la TVA de 18 à 20%, tandis que l'impôt sur le revenu est fixé à 13%, qu'on soit riche ou pauvre. À la veille des dernières élections, Poutine a été obligé d'admettre, je le cite, que le pire niveau de pauvreté depuis 10 ans venait d'être atteint, avec 20 millions de Russes en dessous d'un seuil fixé à environ 130 euros par mois, sachant que le minimum vital et le minimum vieillesse ne sont guère plus hauts, 160 euros par mois. Si les voitures de marques étrangères dominent dans les grandes villes, ailleurs, ce sont les voitures russes, souvent vieilles, qui tombent en panne et que les gens répartent eux-mêmes. Par ailleurs, l'état des routes, connu pour être déplorable, ne s'améliore que sur les principaux axes. Les plus pauvres utilisent des transports en commun ou marchent à pied. Quant au logement, les prix au mètre carré du centre de Moscou sont parmi les plus élevés du monde, tandis qu'ailleurs, des immeubles construits à la va-vite, il y a 50 ans et plus, bien que toujours habités, tombent en ruine. Dans les campagnes, d'un côté, avec 33 millions d'hectares de terres noires fertiles et des exploitations ultramodernes gigantesques, la Russie est devenue la première exportatrice de blé à la place des États-Unis. Mais d'autre part, la majeure partie des campagnes est en déshérence. L'arriération y perdure, caractérisée par le manque d'infrastructures. Beaucoup n'ont toujours pas l'eau courante. Nombre de villages sont quasiment abandonnés de leurs habitants et totalement abandonnés des autorités, depuis qu'a disparu le kolkhoz ou le sovkhoz, c'est-à-dire l'exploitation collective à laquelle ils étaient adossés. Enfin, après 2014, le gouvernement a diminué son aide aux régions, dont près d'une dizaine se retrouvent surendettées. Les provinces d'Extrême-Orient sont aujourd'hui en crise, malgré la volonté du Kremlin de développer les relations avec l'Asie, leur territoire se dépeuplant plus encore qu'ailleurs. Oui, car la crise démographique est une des conséquences de la crise sociale dont la Russie ne s'est toujours pas relevée. Dans les années 1990, le taux de mortalité masculine avait grimpé en flèche à cause de la consommation d'alcool qui entraînait maladies et accidents sur fond d'appauvrissement physiologique des plus démunis. L'espérance de vie masculine recula de 65 ans en 1988 à moins de 59 ans en 2005. En 2015, elle est remontée à presque 66 ans, mais cela reste très bas. En France, elle est de 80 ans. Le gouvernement encourage les naissances en attribuant un capital maternité à partir du second enfant qui sert à améliorer le logement familial ou à financer des études. Mais en ville, cette aide a peu d'effet. Les trois quarts des couples n'ont toujours qu'un seul enfant. Autre conséquence, le nombre de femmes en âge de procréer a diminué d'un tiers en 20 ans. Résultat, la Russie pourrait perdre 10 millions de travailleurs actifs d'ici 2025. Poutine en profite pour dire qu'il faut accroître la productivité du travail. Et par ailleurs, il vient d'annoncer l'allongement du départ en retraite, pas plus tard qu'hier, espérant sans doute faire passer la pilule avec le mondial de foot. Et tenez-vous bien, jusqu'ici demeuré aux normes soviétiques, l'âge de la retraite passera progressivement de 60 à 65 ans pour les hommes et de 55 ans à 63 ans pour les femmes. D'ici 10 ou 15 ans, rien de moins. Pour en revenir à la crise démographique, seuls les flux migratoires ont limité l'effondrement. Entre 2002 et 2010, date du dernier recensement, la population avait globalement diminué d'un peu plus de 2 millions de personnes, mais sans immigration, cette baisse aurait dépassé les 5 millions. La Russie, qui attire les travailleurs des États voisins plus pauvres, en a donc absolument besoin. Et gageons d'ailleurs que quand la classe ouvrière retrouvera le chemin des luttes, cette présence massive de travailleurs immigrés sera une force pour elle, peut-être même un atout pour que ces luttes s'étendent aux pays voisins. Jusqu'à présent, la classe ouvrière n'a pas connu de mouvements sociaux d'ampleur. Comme partout, elle souffre du recul de la conscience politique et du manque de confiance en ses forces. Il y a toutefois des grèves, souvent pour les salaires, bien que les médias en parlent peu. En 2015, par exemple, il y avait eu une grève dans une usine de briques de la région de Toula, au sud de Moscou, où les travailleurs, comme dans les années 90, ne touchaient plus leur salaire, mais étaient payés avec les briques qu'ils fabriquaient, à charge pour eux de les vendre. Il y a eu aussi des grèves, notamment dans l'automobile, pour obtenir des contrats collectifs garantissant de meilleures conditions, ou encore une grève des camionneurs en 2015-2016, menaçant de converger vers Moscou pour protester contre l'instauration d'une nouvelle taxe, alors que leur situation était déjà très précaire. Il y a également des mobilisations populaires. En ce moment, des manifestations ont lieu dans la région de Moscou pour protester contre la prolifération de décharges sauvages où la capitale déverse ses ordures. Le scandale a éclaté à Volokolamsk, à 100 km de Moscou, quand des effluves toxiques ont provoqué l'hospitalisation de 50 écoliers. La télévision ayant montré la colère des habitants, Poutine a promis de régler le problème. Mais il ne l'a que déplacé en délocalisant les décharges. Résultat, aujourd'hui le mouvement fait tache d'huile. Depuis plusieurs années, des protestations s'élèvent contre la démolition du système de santé. Le terme n'est pas trop fort. Entre 300 et 400 hôpitaux ferment chaque année. D'après des statistiques officielles, entre 2000 et 2016, leur nombre a diminué de moitié, retombant au niveau où il était en 1932. Les cliniques privées et les services payants dans les hôpitaux se multiplient pour ceux qui peuvent se les payer. Dans la région de Chita, non loin du lac Baïkal, des centaines de médecins ont menacé de démissionner. Dans celle de Moscou, plusieurs mouvements de grève ont eu lieu. Le même mécontentement s'exprime également dans l'éducation, où les budgets sont en diminution constante. Alors, on l'a déjà évoqué à propos des usines de Togliatti, le pouvoir redoute une explosion qui se généraliserait à travers le pays. Car il y a déjà eu des coups de colère, limités certes, lors de l'effondrement de l'URSS et plus récemment, après la crise de 2008. À l'époque, Poutine s'était livré à une véritable mise en scène. La fermeture de la cimenterie et de la centrale thermique de Pikhalevo, principal employeur de cette petite monoville d'époque soviétique, c'est-à-dire une ville construite autour du conglomérat, avait provoqué des manifestations retentissantes et Poutine avait convoqué les patrons, dont l'oligarque Deripaska, alors 9e fortune mondiale, pour les apostropher devant les caméras de télévision débarquées avec lui. « Vous avez pris ces gens en otage, des milliers de gens, avec votre ambition, votre incompétence, votre pure avidité. C'est absolument inacceptable. Si vous, propriétaire, n'acceptez pas un accord, cette usine redémarrera d'une manière ou d'une autre, avec ou sans vous. » Et il avait obligé Deripaska à signer immédiatement un protocole d'accord. Plus récemment, le gouvernement est venu au secours du trust Rusal, propriété de ce même Deripaska, en le renflouant après la chute brutale de ses actions due aux dernières sanctions américaines. Alors c'est un cadeau aux milliardaires, évidemment, mais c'est aussi le moyen d'éviter l'effondrement d'un trust qui emploie des dizaines de milliers de travailleurs. En même temps que Poutine joue au bon tsar, le pouvoir s'efforce de décourager toute forme d'organisation de la classe ouvrière. Même les syndicats sont soumis à sa pression. Il faut dire qu'en Russie, il existe deux types de syndicats. Ceux issus de l'ex-URSS restent des rouages de la bureaucratie. Ils marchent main dans la main avec la direction des entreprises. D'autres sont apparus, qui se disent indépendants et voudraient jouer le même rôle que le syndicat dans les pays impérialistes. Mais ils ont beau ne pas mettre le système en cause, le simple fait qu'ils s'appuient plus ou moins sur les travailleurs pour négocier certaines améliorations dérange patrons et responsables politiques. Ainsi, le MPRA, un syndicat de l'automobile présent à Saint-Pétersbourg, Kalouga et dans les usines de Renault Avtovaz à Togliatti, syndicat de taille pourtant modeste, a dû faire preuve de combativité pour se faire même reconnaître légalement en menant quelques grèves retentissantes. Sur le fond, il ne se distingue pas des syndicats qu'on connaît ici. D'ailleurs, quand son dirigeant, Etmanov, ancien ouvrier de Ford, s'est lancé en politique en 2016, ce fut pour être candidat d'un parti libéral pro-occidental, Yabloko. Mais en janvier dernier, le tribunal de Saint-Pétersbourg s'était prononcé pour l'interdiction du syndicat, sous prétexte que le MPRA aurait des activités politiques et relèverait de la loi contre les agents de l'étranger, puisque membre d'une confédération syndicale internationale. Finalement, la Cour suprême a cassé cette décision, sans doute provoquée par le zèle du gouverneur de Kalouga, à la solde des PSA, Mitsubishi et autres. Mais cette décision de principe ne signifie nullement la fin des obstacles pour les militants syndicaux. Alors, pour ce qui est des communistes révolutionnaires, en dehors de très petits groupes de militants épars et peu nombreux en Russie, il n'existe hélas aucun parti qui se place sur le terrain de la défense des intérêts politiques des travailleurs. Pour pouvoir dire précisément quel pourrait être le langage et le programme d'un tel parti en Russie, il faudrait militer sur place. Seuls des militants qui vérifieront pas à pas leur politique en la mettant en œuvre, qui sauront faire progresser la conscience des travailleurs dans leur lutte quotidienne, pourront élaborer un programme concret. Il serait ridicule de prétendre l'envisager d'ici. En revanche, nous avons la ferme conviction que si demain des militants russes s'attellent à cette tâche, il faudra qu'ils renouent avec le trotskisme. Car tandis que bien des révolutionnaires, écrasés et démoralisés par le poids social et politique de la bureaucratie, capitulaient devant le stalinisme, les trotskistes furent les seuls à lui disputer la direction de la classe ouvrière et de l'État ouvrier. Ils le firent d'abord dans le parti bolchevique, puis, même après en avoir été exclus, en recréant une organisation clandestine à l'échelle de l'URSS. Et en même temps, ils furent partie prenante de la construction de la société soviétique, défendant bec et ongles l'étatisation et la planification de l'économie qui étaient les acquis du prolétariat et un point d'appui dans le combat pour la révolution mondiale. Même s'ils finirent par perdre ce combat, ils transmirent aux générations suivantes leur capital politique, donc celui de la génération révolutionnaire d'octobre. Ils transmirent le véritable bolchevisme au lieu de sa version stalinienne frelatée. Par la suite, le courant trotskiste poursuivit son combat davantage en Occident qu'en URSS même, où avait été exterminée toute forme d'organisation révolutionnaire. De ce fait, aujourd'hui, il est peut-être plus difficile en Russie qu'ici de renouer avec le passé. Mais on ne reconstruira pas le mouvement ouvrier communiste sans s'inscrire dans cette filiation, ni là-bas, ni ailleurs. Lorsque l'URSS s'effondra à la fin des années 80, la question se posa. Que restait-il de la révolution d'octobre en ex-URSS ? La tentation fut forte pour des organisations trotskistes trop longtemps coupées de la classe ouvrière, de lui tourner le dos et de se débarrasser de la notion d'État ouvrier dégénéré, difficile à défendre à cause du visage repoussant du stalinisme. Cédant à la pression petite bourgeoise qui assimilait l'URSS au communisme et le stalinisme au bolchevisme, surtout en Occident, certaines organisations expliquèrent que l'État ouvrier était mort et enterré. Lutte ouvrière refusa de céder à cette pression. Nous ne voulions pas enterrer l'État ouvrier avant même de savoir si la classe ouvrière réagirait. Nous disions qu'elle pouvait encore défendre ses acquis, l'économie planifiée, et qu'elle y avait intérêt. C'était un choix militant. La question n'étant pas de savoir quel était l'avenir le plus probable, mais celui pour lequel il fallait se battre. Il s'agissait de choisir son camp face à la tentative de restauration du capitalisme en cours, sans capituler d'avance. Alors 27 ans plus tard, la question ne se pose plus de la même façon, évidemment. Plus le temps passe, plus l'ex-URSS est éloigné de ses origines révolutionnaires et intégré au sein du capitalisme mondial. Mais le moins qu'on puisse dire est que cette intégration ne se fait pas facilement, à cause des spécificités de la Russie et plus encore, à cause du capitalisme lui-même en pleine décadence. La crise du capitalisme l'oblige à chercher des profits faciles et rapides dans la financiarisation sans avoir à investir dans la production. Le capitalisme mène la société dans l'impasse et on le voit partout sur la planète, vers la barbarie. Alors, lorsque l'URSS a éclaté, ce qui avait été construit sur la base de l'économie étatisée s'est révélé plus solide qu'on voulait bien le dire. La Russie actuelle, celle des oligarques et des bureaucrates à la Poutine, en a hérité. Certes, on n'est plus dans la logique d'une économie étatisée et planifiée, mais face au prolétariat russe, il n'y a toujours pas une bourgeoisie à la mesure de la puissance économique du pays. L'étatisme reste prédominant par rapport au secteur capitaliste fonctionnant sur la base de la propriété privée des moyens de production, et reste aussi le poids social et politique de la bureaucratie issue de la dégénérescence de l'État ouvrier. Si riches que soient certains parvenus, ils savent que leur fortune n'a toujours pas acquis l'enracinement et la légitimité qu'elle peut avoir dans les pays impérialistes. Elle dépend des bonnes grâces de Poutine, mais aussi de la passivité ou de la compativité des masses. Et si demain on la leur reprenait ? Cette peur viscérale est la cause profonde de l'autoritarisme du régime. La Russie actuelle suit le même chemin réactionnaire que le reste du monde. L'arrogance de Poutine correspond à celle de Trump. La politique russe va avec la montée du nationalisme et les bruits de bottes qui se répandent partout, avec les attentats terroristes, la crise des migrants et la crise tout court qui menace le monde de nouvelles catastrophes difficilement imaginables. Ou bien la société continuera à s'enfoncer dans la barbarie, ou le prolétariat reprendra l'offensive sur la scène politique. Il ne faut pas céder à la pression anticommuniste qui s'exerce aujourd'hui. Si l'URSS est devenu un pays industrialisé et développé en quelques décennies, ce n'est pas sur la base de la recherche du profit, mais grâce à l'étatisation et à la planification de l'économie, donc grâce à la révolution d'octobre. Les oligarques et les voleurs qui dirigent la Russie s'enrichissent en détruisant l'héritage de ce qu'avaient bâti des générations de travailleurs. Ils sont eux-mêmes les héritiers des bureaucrates staliniens qui empêchèrent la population de bénéficier des progrès accomplis et d'aller plus loin en se tournant vers le prolétariat des autres pays. Quand il retrouvera le chemin des luttes, le prolétariat russe trouvera dans son passé l'exemple des trotskistes ayant lutté sans merci pour la révolution mondiale, nous montrant la voie à suivre. Et il n'aura peut-être toujours pas en face de lui une bourgeoisie puissante, mais une bureaucratie et une oligarchie qui n'ont ni l'assise ni l'assurance sociale propre aux capitalistes américains, français, allemands et autres. Cependant, la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie dépasse le cadre de la Russie, comme de n'importe quel autre pays pris isolément. À leur époque déjà, les bolcheviks ne concevaient pas la révolution russe autrement que comme un chaînon de la révolution mondiale. En mars 1918, Lénine déclarait au congrès du parti « Il ne fait aucun doute que la victoire finale de notre révolution serait impensable si nous devions rester isolés, s'il ne devait y avoir aucun mouvement révolutionnaire dans d'autres pays. Face à toutes les difficultés, notre salut réside dans la révolution de l'Europe entière. » Et les bolcheviks firent tout pour aider la révolution à s'étendre. Eh bien, aujourd'hui encore, l'avenir de la Russie est subordonné au rapport de force entre le prolétariat et la bourgeoisie dans le monde entier. En tant que révolutionnaires, nous devons, partout où nous militons, faire renaître la conscience de classe et l'organisation politique qui manque à la classe ouvrière. Chaque progrès dans ce sens, chaque succès de la lutte du prolétariat dans un pays, rejaillira sur les autres. Nous devons affirmer la nécessité de renverser le capitalisme pour offrir à l'humanité entière l'avenir qu'elle mérite. Il faut que renaisse le mouvement communiste révolutionnaire avec des partis dans tous les pays. En Russie, comme ici, il faut que le prolétariat retrouve sa combativité et surtout la conscience que face au capitalisme décadent, il représente l'avenir de la société.